Un fait qui mérite d'être souligné, c'est que nous devons effectivement une belle avancée de la recherche en histoire médiévale à une Rouennaise d'adoption, qui est ma directrice de thèse, Elisabeth Laloux. Et je fais ici tout de suite référence à cet instrument de travail qu'elle a publié il y a une dizaine d'années, qui s'intitule « L'itinéraire de Philippe Lebel », soit la liste de 10 000 actes qui, datés et localisés, permettent de reconstituer les déplacements du roi. Et inutile de vous dire que cette source, cette liste, est extraordinairement riche d'enseignements. Car le roi voyage, donc au Moyen-Âge. Il est même, lui et ses familiers, en déplacement perpétuel, à ceci près que les lieux de séjour en dehors de Paris, qui reviennent le plus souvent, ne sont pas nécessairement ceux que l'on attendrait. En lieu et place de Rouen, de Beauvais, d'Amiens, où l'on relève néanmoins quelques séjours, par exemple, il y a 4-5 séjours que l'on peut relever dans cet itinéraire, donc à Rouen, il y en a un peu plus à Orléans, on en relève une dizaine. En fait, ce sont surtout les massifs forestiers aménagés en espaces résidentiels où l'on retrouve le plus souvent donc ce roi Philippe le Bel. Alors, ces massifs, je vous les ai représentés ici rapidement, c'est la forêt d'Orléans, la forêt de Fontainebleau, la forêt de l'Allais, que l'on retrouve dans Saint-Germain-en-Laye, mais on peut aussi y associer la résidence de Poissy, la forêt de la Cuise, que l'on va appeler aujourd'hui la forêt de Compiègne, et puis en Normandie, la forêt de Lyons. Tous ces massifs sont à peu près équivalents. La forêt de Lyons, au Moyen-Âge, c'est 25 000 hectares. Aujourd'hui, c'est 10 600. De toutes ces forêts, il y en a quand même une qui domine toutes les autres, c'est celle de Compiègne. Alors, nous savions à Lyons que Philippe le Bel avait séjourné dans la forêt 4 ou 5 fois, mais pas 48 fois, comme nous l'a appris justement cet itinéraire publié donc en 2007 par Elisabeth Laloux. Donc il ne restait plus qu'à se mettre au travail. Pour accueillir, première question que j'ai pu me poser, comment la forêt de Lyons a-t-elle été imaginée pour accueillir le roi si souvent? À quoi ressemble une résidence de plaisance au début du XIVe siècle? Que sont devenus ces vieux castrums, ce qu'on appelait autrefois des châteaux forts, de l'époque Plantagenet? Est-ce qu'ils sont toujours utilisés 180 ans plus tard? Et quelle place les châteaux de la forêt de Lyons sont-ils occupés dans l'itinéraire de Philippe le Bel? Donc un exemple de nomadisme royal, la forêt de Lyons et les 48 séjours de Philippe le Bel. Donc c'est l'une des grandes originalités de ce règne que de nous avoir fait nous permettre de découvrir l'importance des forêts du bassin parisien, telles qu'elles apparaissent ici, aménagées comme espaces résidentiels. À titre d'exemple, on peut prendre l'un des premiers déplacements du roi Philippe le Bel. Voilà. L'un des premiers déplacements du roi Philippe le Bel. Donc ce roi n'a que 19 ans, il est né en 1268. Donc nous sommes ici, son règne a démarré à la fin de l'année 1285. Là nous sommes en octobre-novembre 1287, le roi a 19 ans. Regardez ce qu'il fait. Il a quitté Paris, nous sommes à la fin du mois d'octobre, justement pour la forêt de Cuise. Cette forêt de Cuise qui se trouve comprise ici entre Pont-Sainte-Maxence et Villers-Cotterêts. Il va y passer environ 3 semaines, puis il prend ensuite la vallée de l'Oise. Il va descendre tout simplement à Pontoise. Nous sommes à Pontoise à la fin, donc au début du mois de novembre. Et puis, il prend ensuite la direction de Lyons. Il est à Lyons aux alentours du 15 novembre. Et après avoir passé une petite semaine en forêt de Lyons, eh bien, on le voit ensuite partir pour le Vaudreuil, le Val d'Oreuil. Là encore, il va y passer quelques jours. Et on pourrait se dire que, étant à quelques kilomètres seulement de Rouen, qui est quand même la deuxième ville la plus importante du royaume, évidemment, il va y faire un tour. Pas du tout. Donc, il rentre ensuite à Paris. Donc, en fait, qu'a-t-il fait ? Il a consacré ce mois à chasser. Il est allé donc d'abord en forêt de Cuise, c'est là où il est resté le plus longtemps, puis ensuite en forêt de Lyons. Il fait un petit tour par la forêt de Bord, hein, puisque qui dit le Vaudreuil donc, dit une grande résidence royale hein, qui se trouve donc à proximité immédiate de la forêt de Bord. C'est évidemment cette forêt qui l'a attiré. Et il rentre donc dans sa capitale. Cette inclination de Philippe IV le Bel pour la chasse eh bien, se manifeste tout au long de son règne. C'est quelque chose ici que l'on va retrouver pendant toutes ces années. Et ça permet par exemple d'expliquer le pic de fréquentation de la forêt de Lyons par le roi. Donc, ça, c'est la diapositive suivante. Voilà, donc j'ai repris tous les actes signés par Philippe le Bel et ses successeurs, hein, puisque le règne de Philippe le Bel démarre en 1285, 1328, alors même qu'il meurt en 1314. Vous savez qu'il y a ses trois fils qui lui succèdent. Et son dernier fils, Charles IV le Bel, meurt en 1328. Et donc se termine là, une branche. Hein, ce sont les Capétiens directs qui trouvent ici leur extinction. Et on passe ensuite donc, à l'autre branche, branche cadette, celle des Valois. Voilà, donc en additionnant tous les actes de Philippe IV le Bel, de Louis X le Hutin, de Philippe V le Long et de Charles IV le Bel, eh bien donc on obtient ceci. Et vous voyez qu'il y a un pic très net de fréquentation à partir du mois de juillet jusque vers la fin du mois de novembre, avec une petite baisse au mois d'octobre, parce que pour des raisons familiales, Philippe le Bel a l'habitude d'être à Paris ou en région parisienne au mois d'octobre. Ce qui peut d'ailleurs vous surprendre, et de fait, le calendrier de la chasse au Moyen-Âge n'est pas tout à fait le calendrier d'aujourd'hui, puisque la chasse démarre à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Voilà. Et ceci explique, donc, nous donne la principale raison pour laquelle Philippe le Bel va venir en forêt de Lyons aussi souvent. Donc, ce qui l'intéresse en particulier, c'est donc cette chasse. Et ça donne de ce roi le portrait d'un souverain habité par ses passions et qui laisserait ses grands officiers, par exemple un Guillaume de Nogaret, par exemple un Enguerrand de Marigny, donc gouverner à sa place. Je vais prendre un autre exemple. Voilà, alors j'ai eu un petit problème pour bien centrer mon document. Je regarde si c'est visible pour vous, un petit peu. Voilà, nous sommes cette fois-ci en 1304. Et en 1304, le roi qui a vu son armée être battue à Courtrai, il y a eu une grande défaite en 1302, ce roi a décidé de prendre un peu sa revanche. Et il a donc mobilisé son host, l'armée royale. Il l'a mobilisé, il lui a donné rendez-vous à Arras. Et de report en report, finalement, le bon rendez-vous, c'est le 8 juillet 1304. Voilà, donc le roi de fait quitte Paris. Déjà, c'est peut-être un peu court, hein, il quitte Paris le 1er juillet, mais là où on pourrait imaginer qu'il quitte Paris directement pour aller à Arras, hein, d'où la flèche jaune, en fait, il va flâner. Et on le voit prendre la direction de Poissy, Poissy, donc il y est le 3 juillet, puis ensuite il passe à Pontoise, et puis ensuite il prend la direction de Naufle, c'est-à-dire Naufle près de Gisors, c'est-à-dire donc la direction de la forêt de Lyons. Et en fait, il va s'organiser une petite semaine de chasse, alors que tout le monde l'attend depuis le 8 juillet à Arras. Voilà, monsieur le roi de France donc, a d'autres choses plus importantes à faire, c'est chasser en forêt de Lyons. Finalement, il prend quand même le chemin pour Arras. On le trouve, il a un acte qui est signé à Amiens le 19 juillet, et il est le 22 juillet à Arras, il a 15 jours de retard. Voilà. Bon, pour autant, cette revanche, il la prendra. Et ça nous donne donc une victoire, celle de Mont-Saint-Pével. Il y a un petit éclair là, tout à fait rouge. On est juste au sud de l'île et c'est une bataille qui a lieu le 19 août 1304. Bien. Se poser ensuite la question de savoir ce qu'on sait sur les chasses de Philippe le Bel en forêt de Lyons. Donc la longueur, ça peut durer plusieurs jours, 2, 3, 4 jours. On a des séjours qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines. Et d'ailleurs, quand on met bout à bout tous les séjours, les 48 séjours de Philippe le Bel en forêt de Lyons, on obtient plus d'un an écart de règne. Sur le plan géographique, le roi ne chasse pas toujours dans le même secteur. Il se déplace dans un massif, donc je l'ai dit, immense, hein, avec ses 25 000 hectares. Et il se déplace d'autant plus facilement qu'il dispose de nombreuses résidences à la périphérie de la forêt. Voilà. Donc déjà, avant même de rentrer dans la forêt, il dispose par exemple de la résidence de Gisors, et j'aurais dû la faire apparaître de l'autre côté de la forêt de Lyons. Donc, il dispose de la résidence de Bellozane, près de Gournay-en-Bray. Et puis, il y a bien sûr ses propres résidences, et ses propres résidences en forêt de Lyons. Alors, ça évolue avec le règne. Hein. C'est un règne qui est long, hein, puisqu'il dure à peu près une trentaine d'années. On a deux résidences, il hérite de deux résidences au début de son règne, qui sont les résidences de Lyons, qui apparaît ici en rouge, et la résidence de Longchamp, qui est au sud-est par rapport à Lyons. Et puis ensuite, il en récupère d'autres, ou il en fait construire d'autres, comme celle de Neufmarchais, celle de la Fontaine du Houx et celle de La Feuillie. Voilà. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles il y a autant de résidences, c'est qu'à cause de la chasse, il a besoin de se déplacer. Quel type de chasse est pratiqué ? Essentiellement la chasse à court. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait par hasard si sur les 8 veneurs que compte la vénerie royale, eh bien, vous avez 4 de ces veneurs qui officient à des titres divers en forêt de Lyons. Donc là, je les ai représentés, 4 et même 5, en considérant le premier d'entre eux, qui est Jean le Veneur, que l'on appellerait à partir du 15e siècle le grand veneur du roi. À l'époque, le titre est un peu différent. Il est le maître donc, de la vénerie royale. Il est originaire de la forêt de Lyons. On voit très, très bien où se trouve son hôtel. Donc est encore visible au cœur de la forêt, près de Bézu-la-Forêt, dans un petit lieu qui s'appelle Maurepas. Et puis, vous avez donc ces veneurs. Vous avez Guillaume de Franconville, qui, lui, est le châtelain de Neufmarchais, qui se trouve en forêt de Lyons. Vous en avez un autre qui est Durand, qui va pas tarder à devenir d'ailleurs Durand de La Feuillie, qui est le châtelain de La Feuillie. Le châtelain, c'est-à-dire en fait le concierge. C'est lui qui s'occupe de la maison du roi en son absence. Et puis des neveux ou le fils de Guillaume de Franconville, Renaud, c'est un de ses neveux, et Robinet, le petit Robert, qui prendra d'ailleurs la suite de Guillaume de Franconville comme châtelain de Neufmarchais à partir des années 1320. La fauconnerie n'est pas totalement absente, même si lorsqu'on vient à Lyons, c'est pour chasser le cerf, chasser le sanglier. Il faut savoir que cette chasse se pratique surtout dans des bois qui sont plus clairsemés que les grandes futaies. Ce qui me fait dire qu'il y a quand même de la fauconnerie, c'est qu'il y a une chambre au fauconnier qui est indiquée dans le château de Longchamp. Et de fait, le secteur de Longchamp est le moins densément boisé. D'ailleurs, aujourd'hui, si la forêt de Lyons ne fait plus donc ses 25 000 hectares, c'est que tout le secteur de Longchamp a été donc totalement déforesté. Qui accompagne le roi ? Car le roi ne chasse pas seul, sachant qu'il faut sans doute distinguer ceux qui viennent chasser avec lui en forêt et ceux qui se contentent de séjourner avec lui dans le pays de Lyons. Donc, il y a son hôtel, c'est-à-dire tous les officiers qui assurent le service du roi et qui organisent sa vie quotidienne. Il va de soi que si le roi se déplace, eh bien, ses services sont obligés d'en faire autant. À l'époque de Philippe le Bel, il y a ce que l'on appelle les six métiers de l'hôtel, d'un côté, et de l'autre côté, il y a les six chambres. Donc, je vous ai fait apparaître ici rapidement ces six métiers, la panetterie, les chansonneries. Donc, la panetterie, ce sont ces serviteurs qui s'occupent de la fourniture du pain. Les pâtisseries aussi, la table royale, les chansonneries, remplir les verres de vin, d'eau, de bière, la cuisine, là où les plats sont préparés, le fruit, qui est aussi appelé la cire, chargé de la fourniture des fruits et des épices, mais aussi de tout le luminaire et du chauffage, l'écurie, responsable de l'entretien des chevaux, ce qui en fait un métier de première importance pour ce roi qui se déplace en permanence. C'est par exemple l'écurie qui est responsable de la fourniture du foin et de l'avoine. Et ça revêt une importance particulière en forêt de Lyons, parce qu'on va le voir dans quelques instants, il se trouve qu'il y a aussi à Lyons un hara, l'un des tout premiers haras du royaume de France que l'on ait repéré. C'est quelque chose qui est assez rare. Et ce hara se trouve à proximité de la Feuillie. Il se trouve aussi que la forêt de Lyons produit une quantité importante d'avoine. Bien, le sixième métier, c'est la chambre du roi. Elle est dirigée par un chambellan. Il se trouve qu'en forêt de Lyons, eh bien, on connaît bien l'un de ces chambellans. Il s'agit de Enguerrand de Marigny. Il devient, alors il y a quatre chambellans, de façon générale, sur l'ensemble du règne de Philippe le Bel. Et Enguerrand de Marigny devient chambellan du roi à partir de 1304-1305. C'est vraiment son homme de confiance, celui qui lui sert aussi de dernier rempart pour sa sécurité. On a toujours l'habitude de dire qu'il dort, par exemple, au pied du roi. À l'époque de Philippe le Bel, bon, là, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, puisque cette chambre prend une très, très grande importance. Et en fait, cette chambre n'est plus considérée comme un métier et rejoint les autres chambres, comme par exemple les chambres spirituelles, comme par exemple l'aumônerie ou la chambre des deniers. Je passe. Dire ensuite que à tous ces services, ces métiers, ces chambres, il faut rajouter donc un service particulier qui en forêt de Lyon se révèle importance que l'on sait, qui est donc la vénerie. Mais ce n'est pas tout, puisque à tous ces officiers constituant cet hôtel du roi et tous ces services, il faut y ajouter l'hôtel de la reine, ajouter l'hôtel des enfants royaux, alors certes avec un personnel moins nombreux, sous réserve, bien sûr, que la reine et les enfants soient avec le roi. Mais, je vous l'ai dit, vous l'avez vu, le roi vient en forêt de Lyons essentiellement l'été, à la belle saison. Et donc, en fait, la reine le suit et les enfants de France avec. Donc, il faut imaginer à peu près 300 personnes qui suivent le roi dans ses pérégrinations. 300 personnes, au moins, qu'il va falloir nourrir, qu'il va falloir loger. Et puis, le roi vient rarement chasser en forêt de Lyons sans invité. Et quels peuvent être ces invités? Bien, la documentation nous en donne quelques exemples. Ça peut, par exemple, être son frère, le Charles de Valois, le père du futur roi Philippe VI. Ce qui me permet de le dire, c'est qu'il y a au château de Longchamp une salle qui porte encore manifestement son nom, puisque en 1331, ça fait 5 années que Charles de Valois est décédé, mais en 1331, il est question donc de la chambre Charles. Et je ne pense pas qu'il puisse s'agir de la chambre du roi, on l'aurait appelé autrement. C'est la chambre Charles, c'est très certainement la chambre donc, du frère du roi, Charles de Valois. On a aussi un exemple avec la fille de Philippe le Bel. Alors ici, c'est un document qui est assez célèbre, qui rend compte d'une rencontre qui s'est déroulée à Paris en 1313. Vous avez au milieu le roi de France, Philippe le Bel, et donc à sa droite, vous avez sa fille, Isabelle. Si elle est couronnée, c'est tout simplement parce qu'elle a épousé le roi d'Angleterre. Et puis, vous avez, je continue donc, à la droite d'Isabelle, vous avez ses deux frères, D'abord, vous avez, alors ils ne sont pas couronnés pour l'instant, donc il s'agit de Philippe, et il s'agit donc, il régnera sous le nom de Philippe V, et le petit dernier sur le côté, c'est Charles, le futur Charles IV le Bel. De l'autre côté, vous avez un jeune homme qui est couronné, et ce jeune homme qui est couronné, c'est le roi de Navarre, celui qui est l'aîné du roi de France, et qui est appelé à lui succéder, donc c'est le futur Louis X le Hutin. Et puis, vous avez tout à fait à l'autre bout, le frère du roi, dont on a parlé il y a quelques instants, Charles. Donc, je reviens à Isabelle, la reine. Elle a épousé le roi d'Angleterre en 1308, le roi Édouard. Et à plusieurs reprises, elle va venir à Paris. Comme par exemple, nous sommes ici en mars 1314. Et elle aussi, alors qu'elle arrive à Calais, le chemin le plus court donc, devrait l'amener à passer par Chantilly, Senlis, Saint-Ouen, etc. Et en réalité, elle aussi, elle fait un détour par la forêt de Lyons. Elle passe par Gerberoy, elle passe par Neufmarché, où elle reste seulement pour passer la nuit. En fait, je crois savoir la raison pour laquelle elle veut s'arrêter à Neufmarché, parce qu'à Neufmarché vit son ancienne nourrice, voilà, qui apparaît dans d'autres documents. Et donc, je pense que c'est pour des raisons un peu affectives. Donc, elle a décidé de faire ce petit crochet. Et puis ensuite, elle rejoint Paris assez rapidement. Il y a aussi sa cousine, qui est Mao d'Artois. Mao, c'est la petite fille du frère de Saint-Louis, Robert. Et elle aussi, à un moment donné, on a conservé une partie de ses comptes. Et donc j'ai regardé ses comptes. Effectivement, on la voit traverser la forêt de Lyons. Elle va y passer deux ou trois jours. Elle passe à Longchamp, elle passe à Neufmarché, en compagnie du roi de France. Voilà. Alors, ce roi a la possibilité de loger tout ce monde, je l'ai dit, dans toutes ses résidences. Il peut aussi se rabattre sur l'abbaye de Mortemer, mais aussi tout simplement dans les villages. Parfois, on a des informations plus précises qui montrent que pendant que le roi est dans telle résidence, le commun, donc lui, a investi tel ou tel village à 2, 3, 4 kilomètres donc, de la résidence. À quelle autre activité se consacre le roi en forêt de Lyons, lorsqu'il ne chasse pas? Eh bien, il va se rendre, par exemple, à La Feuillie, hein, qui est ce manoir situé à proximité de son haras, à 3 km. Alors, voilà, vous avez ici une reconstitution du système de La Feuillie. Je ne sais pas si vous voyez les choses correctement. Donc, vous avez cette grande tache verte qui est traversée aujourd'hui par la Nationale, hein, qui va de Gournay à Rouen, et donc qui est une lande qui fait à peu près 800 hectares. Sur le côté, vous avez le petit village de La Feuillie, où j'ai fini, ça n'a pas été simple, par retrouver donc les traces du grand manoir de Philippe le Bel. Et de l'autre côté de la lande, Corsaire, eh bien donc il y a encore aujourd'hui un lieu-dit qui s'appelle Écorcheval. Mais en réalité, dans les documents du XIVe siècle, ce lieu-dit s'appelle Escour de Cheval. Donc c'est très certainement là où était situé donc justement l'un de ces tout premiers haras qui apparaît dans la documentation. L'autre activité du roi, elle est essentielle. Ça consiste à faire preuve de générosité au gré des déplacements du roi. Hein, c'est une pluie d'aumônes. Alors, je pensais qu'il y avait une autre photo, mais ce n'est pas grave, on parlera des écrouelles dans quelques instants. Pluie d'aumônes et de bienfaits qui s'abattent sur la région où séjourne le roi. Je vous donne quelques exemples. C'est par exemple, alors là, je vais remonter un petit peu en arrière. Je vais parler de son grand-père, Saint-Louis, qui lui aussi fait des séjours en forêt de Lyons. On est le 12 juillet 1239. Il accorde un secours de 10 livres à une pauvre mère de 9 enfants. Deux jours plus tard, il est à Longchamp et il fait une aumône de 5 livres à un écuyer devenu insensé, devenu fou. Plus tard, en septembre 1308, cette fois-ci, c'est Philippe le Bel qui vient au secours d'une veuve d'un sergent de la forêt de Lyons. Il lui donne 4 livres, qui est quand même une somme relativement sympathique. Il y a aussi pas mal d'aumônes pour des religieux, des ermites, des reclus, des recluses. Et puis, ces aumônes peuvent aussi prendre une dimension collective. Par exemple, pour l'anniversaire de la mort de Philippe Auguste, il est mort un 14 juillet, on a Saint-Louis qui est en forêt de Lyons et qui fait un don de 20 livres donc pour des pauvres. Il y a aussi la léproserie de Lyons-la-Forêt qui bénéficie à plusieurs reprises de secours royaux. On peut aussi y ajouter des équipements financés par le roi, donc un certain nombre de maladreries. Il y a au cœur de Lyons une très grande maladrerie, un peu perdue au cœur de la forêt, qui bénéficie là aussi régulièrement de subsides royaux. Une autre activité du roi, ça peut être de visiter des sanctuaires, comme par exemple l'abbaye de Mortemer, je passe. Et puis terminer avec une pratique donc un peu singulière, révélée en son temps par la belle étude de Marc Bloch. Ce sont les rois thaumaturges, donc cette belle étude. Et ici, nous avons deux exemples, deux beaux exemples, où Philippe le Bel accueille en forêt de Lyons, reçoit en forêt de Lyons des scrofuleux. Alors, dans le texte, on nous dit qu'ils sont atteints du mal du roi. On a leur identité. On sait d'où ils viennent. On a par exemple un certain Arnaud de Simora qui nous vient du pays toulousain. Il a traversé donc tout le royaume à pied sans doute et il va recevoir ce toucher royal. Vous connaissez la formule, hein. Le roi te touche, Dieu te guérit. La maladie, c'est une forme de tuberculose, enfin, c'est une maladie chronique d'origine tuberculeuse qui provoque des fistules à la base du cou. Et si on lui donne un peu d'argent, donc c'est aussi pour qu'il puisse revenir chez lui. On en a un autre qui vient de Romania, c'est-à-dire en fait de Romagne. Façon de dire que cette réputation du roi, en fait, elle échappe, elle dépasse les frontières. Et d'ailleurs, parce qu'il vient sans doute d'un peu plus loin, on lui a donné une somme d'argent un peu plus importante. J'en viens maintenant donc à la deuxième partie. Et je vous remets cette carte des résidences royales de Philippe le Bel en forêt de Lyons, puisque nous allons parler véritablement maintenant de ce réseau résidentiel à son âge d'or, qui est le temps de Philippe le Bel et de ses trois enfants. Alors, c'est peut-être un peu ambitieux de parler de réseau résidentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque lorsque Philippe le Bel arrive en 1285 sur le trône, il ne récupère comme héritage en forêt de Lyons que ses deux résidences, Lyons-la-Forêt et Longchamp. Il faut dire que cette forêt de Lyons a connu des vicissitudes depuis l'époque du XIIe siècle, parce qu'au XIIe siècle, il y avait en fait quatre gros châteaux en forêt de Lyons. Il y avait le château de Lyons, la forêt, le château de Longchamp, le château de Neufmarché. Il y avait aussi un château que j'ai fait ici disparaître, qui est le château de Beauvoir en Lyons. Et entre-temps, deux châteaux sur quatre ont été effacés de la liste. Beauvoir a été détruit. Vous savez qu'il y a eu des guerres à la fin du XIIe siècle, au tout début du XIIIe siècle, des guerres entre Philippe Auguste et Henri de Plantagenet, et ensuite Richard Cœur de Lion. À l'issue donc de l'une, à l'issue d'un des problèmes militaires rencontrés, eh bien Philippe Auguste a été obligé de se replier, mais il a fait en sorte que Beauvoir ne puisse pas resservir aux troupes de Richard Cœur de Lion qui était en train de reconquérir la région. Donc Beauvoir a été détruit à peu près vers 1195. Neufmarché aussi disparaît de la liste parce que Neufmarché a été attribué à la même époque en guise de récompense à l'un des généraux, à l'un des chefs militaires qui a accompagné Philippe Auguste dans sa conquête de la Normandie et qui s'appelle Guillaume de Garlande. Et un siècle plus tard, lorsque Philippe le Bel arrive sur le trône, c'est toujours une Garlande. Alors, elle s'appelle Isabelle de Beaumont, c'est son arrière-petite-fille qui possède le château de Neufmarché. L'intérêt de Philippe le Bel pour la forêt de Lyons est si vif qu'il ne va pas se contenter longtemps donc, de cet héritage. Et c'est en ce sens que l'expression de réseau résidentiel donc, ne va pas tarder à prendre tout son sens. Alors, si on commence par les deux châteaux historiques, ces deux châteaux dans les textes, donc on les appelle des castrums. Donc, je passe en revue rapidement ces deux castrums. Vous connaissez peut-être Lyons-la-Forêt, et peut-être que depuis tout à l'heure, vous vous dites, mais s'il y a eu un château important à Lyons-la-Forêt, où peut-il donc se trouver? Et de fait, si vous êtes sur la place de la Halle, si vous êtes au niveau de l'église, vous ne pouvez absolument pas vous douter de l'organisation interne de ce village. D'où l'intérêt de cette photo aérienne et de ce petit jeu de couleurs. En fait, vous avez dû vous apercevoir que vous tournez autour de quelque chose. En fait, toutes ces façades du cœur du village cachent une butte qui est relativement importante puisqu'elle fait plus d'un demi-hectare. Et c'est ici, donc ça correspond à l'ancien site de la haute cour du château. Pour vous donner une idée, si vous comparez la motte féodale du château de Gisors avec cette plateforme de la haute cour de Lyons, la haute cour de Lyons fait à peu près trois fois donc la surface sommitale de Gisors. Je ne suis pas en train de vous dire que Lyons est trois fois plus important que Gisors, hein, mais c'est un château donc d'une autre nature. Donc, ce château qui est constitué de donc il y a évidemment une chemise hein, qui en fait le tour. Il est flanqué de tourelles. Il y a un immense donjon au milieu que l'on a retrouvé, dont on a retrouvé traces dans des fouilles qui ont été effectuées par l'Université de Rouen. C'était là aussi en 2007. Et puis, il y a une basse-cour, une première basse-cour que j'ai représentée ici en jaune et qui est la basse-cour initiale d'un site castral qui, lui, a été mis en place à peu près vers Guillaume le Conquérant. Parce qu'en fait, depuis les tout premiers ducs de Normandie, ce lieu est une résidence ducale et sera récupéré ensuite par les Capétiens comme résidence royale. Jusqu'à la Révolution, non, pardon, jusqu'au XVIe siècle, le seigneur de Lyons est le roi d'Angleterre, puis ensuite le roi de France. Et puis vous avez ce triangle vert, donc qui date, lui, du roi Henri Ier Beauclerc, qui est d'ailleurs mort dans ce château de Lyons en 135, et qui correspond à un bourg castral qui a été organisé, qui a été créé dans les années certainement 110-1120, et qui se trouve donc au pied de ce château. Tant et si bien qu'avec le temps, eh bien en fait, c'est un château avec deux basses-cours. Curieusement, parce que c'était la plus active, celle qui est en vert, on l'appelait la grande basse-cour, le grand bel, et l'autre basse-cour en jaune, on l'appelait le petit bel. Bien, donc voilà pour Lyons. En haut de la photo, dans cet herbage, il faut imaginer les viviers, hein, les viviers du roi, qui est une surface donc, qui fait à peu près 2 à 3 hectares. Voilà le donjon de Chambois. Et si on veut imaginer donc, le donjon de Lyons, qui correspond à ce que l'on a trouvé en fouille, voilà, ça correspond à peu près à ce type de donjon. Le castrum maintenant de Longchamp en Lyons, donc, qui est un castrum complètement différent, a priori beaucoup plus petit. D'ailleurs, regardez au milieu de cette haute cour, vous avez une toute petite tour. En fait, si elle est si petite, c'est qu'elle devait être très haute. Ça devait être une tour de guet qui devait monter peut-être à 22-25 mètres de hauteur. Il ne reste plus malheureusement aujourd'hui qu'un moignon, mais on voit à peu près donc encore, on comprend la forme hein, de cette haute cour qui a dû être pas mal remaniée. Comme à Lyons, c'est adossé à ce château, donc un bourg castral. J'en viens maintenant aux deux autres résidences. Donc, je vous l'ai dit, Philippe le Bel n'allait certainement pas se contenter de cela. Et très rapidement, dans l'itinéraire de Philippe le Bel, on voit apparaître, en plus de Longchamp et de Lyons, la Feuillie. Alors, le problème que j'ai avec la Feuillie, d'abord, ce n'est pas un castrum. Hein, on nous dit que c'est une domus, hein, c'est une maison. On ne va pas tarder à l'appeler un manoir. Le problème que j'ai pu avoir, c'est de savoir justement où le localiser, car ce manoir a totalement disparu. Alors, je ne sais pas si de loin vous voyez, mais ce que j'ai voulu faire ici apparaître, c'est un petit indice qui au début m'a été extrêmement pratique. Cet indice, c'est un toponyme que l'on retrouve sur les cartes donc, topographiques, IGN 25 millième, et c'est le toponyme Le Parc. Il se trouve qu'en forêt de Lyons, mais il y en a ailleurs aussi, à proximité de ces résidences de la haute aristocratie, aux plus fortes raisons des résidences royales, il y a un aménagement que l'on appelle un parc, qui est un parc à gibier. La résidence a pu être dissoute, hein, n'existe plus, mais il existe encore donc un pré, un champ. J'imagine que l'agriculteur ne comprend absolument pas pourquoi ça s'appelle le parc. Voilà, bah, tout simplement parce que ici, donc là j'ai représenté, là on est à Touffreville, et il s'agit aujourd'hui d'une ferme qui s'appelle Le Plessis. Et là vous avez donc l'un des plus importants manoirs de toute la France du XIVe siècle, manoir d'Enguerrand de Marigny. Enguerrand de Marigny, d'ailleurs, lui aussi, il fait un peu dans l'inflation immobilière, puisque en Forêt-de-Lyons, il a un autre manoir, qui est celui de Menneville. Et aujourd'hui, à Menneville, vous avez deux secteurs qui s'appellent l'un le Petit Parc et l'autre le Grand Parc. Donc, on est juste à la sortie de ce que l'on connaît, de ce qui est aujourd'hui représente comme étant l'ancien manoir d'Enguerrand et à La Feuillie. Donc, au nord-ouest de La Feuillie, eh bien, il y a un grand herbage qui s'appelle le parc. Donc, il semble indiquer que ce manoir devait se situer au nord-ouest de La Feuillie. Et puis, j'ai fini par trouver tout simplement la solution. La solution, elle dormait aux archives départementales de Seine-Maritime, ici, à Rouen. C'est un vieux plan du XVIIIe siècle qui me localise, donc qui me donne le nom d'un quartier. Je sais par d'autres documents très anciens que le nom que l'on donnait à ce manoir, c'était Mattebrune. Et tout d'un coup, sur cette carte du début du XVIIIe siècle, je vois donc Mattebrune qui apparaît. Et alors voilà ce que ça donne. Voilà une photo donc de La Feuillie, si vous connaissez, hein, avec cette flèche, hein, qui est très très haute. Et en fait, le manoir se trouve de l'autre côté de l'église, un manoir tout en longueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce manoir, en fait, assez rapidement décline et va même être abandonné dès les années 1350, alors qu'il a dû être aménagé dans les années 1280. Et à l'emplacement de ce manoir, eh bien, donc, s'est développé peu à peu un village. Je sais que cette église-là, qui s'appelle Saint-Eustache, eh bien, donc, elle a été fondée par le duc de Normandie, le dauphin Charles, le futur Charles V. J'ai retrouvé l'acte de fondation signé de sa main, si je peux dire. Et donc, il nous explique que la chapelle du manoir est trop petite pour servir de paroisse et qu'il va falloir construire donc, cette église en face le manoir. Donc, tout est corroboré. La seule chose, c'est que tout le monde ignore pour l'instant La Feuillie, à commencer par le maire, donc, ce que j'ai trouvé. Et qu'il va falloir que je ne tarde pas trop donc, à prévenir les autorités parce qu'il est clair que dans les jardins qui sont derrière, donc, il y a des choses extrêmement sensibles. On ne connaît pas tant de manoirs que ça de Villiers-le-Bel. Ce manoir de La Feuillie, je pense qu'Elisabeth est d'accord avec moi, est un manoir fondamental donc, du règne de Philippe. C'est l'un des lieux qu'il fréquente le plus, hein, si on regarde ne serait-ce que l'itinéraire. Villiers-le-Bel donc, va ensuite faire ce qu'il faut pour racheter donc, ce château qui lui manquait, qui avait été donné par Philippe Auguste donc, au Garlande. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dort donc, aux Archives nationales à Paris l'acte donc, de vente, hein, qui décrit absolument toute la châtellenie. Quand on a le manuscrit entre les mains, on a l'impression qu'il est tellement frais qu'il a 50 ans, alors qu'il a 700 ans. Bien, voici ce château. Donc, ce château, en fait, que va en faire Villiers-le-Bel ? Il va faire des travaux considérables. Il va le rénover de fond en comble, quasiment, puisqu'on sait qu'on a retrouvé, on a des épaves comptables pour cette époque et pour neuf marchés. Et quand on met bout à bout tout l'argent engagé par le Trésor royal, on obtient 20 000 livres tournois. Il faut savoir que le budget royal, c'est 200 000 livres tournois. Donc 20 000 livres, c'est, j'additionne la comptabilité sur plusieurs années, hein, sur 5 années. Mais c'est quand même quelque chose donc, de très important. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que les historiens pensaient, ce que l'on voit aujourd'hui, cette ruine que l'on voit aujourd'hui à Neufmarché, n'est pas en fait le reste du vieux château fort d'Henri Ier Beauclerc, mais le reste du manoir somptueux que Villiers-le-Bel a fait construire, donc en rénovant totalement le vieux castrum de neuf marchés. Quand on jardine un peu profondément neuf marchés, ben voilà ce qu'on trouve. On trouve des pavements avec des fleurs de lys. Voilà, ça, tous les habitants de neuf marchés sont au courant. Bien, vous avez ensuite la fontaine du Houx. Donc encore un autre manoir, mais qui montre aussi un peu la démesure de ce roi, parce qu'on pourrait dire quand même qu'entre Lyons-la-Forêt, Longchamp, La Feuilly, donc ça devrait suffire. Eh bien non. Un manoir extraordinaire, un manoir qui aujourd'hui n'existe plus au sens où ce que vous voyez en haut à gauche est un manoir qui a été totalement reconstruit au XVIe siècle, mais le site, lui, a été totalement préservé. Ce qui en revanche date donc de l'époque, c'est la petite chapelle que vous avez ici en bas à gauche, qui est la chapelle de Saint-Eutrope. Ce qui est extraordinaire donc, dans ce manoir, c'est que par rapport aux autres résidences, ça dit, la particularité aussi de la fontaine, c'est qu'on est vraiment au cœur de la forêt. Alors que les autres manoirs sont adossés, comme je vous l'ai dit, à des bourgs. Celui-là, en revanche, est dans la forêt. Il est toujours d'ailleurs au cœur de cette forêt. Quelque chose que connaissent bien les historiens du Vert. Il y a un comte donc on a retrouvé dans la comptabilité du bailliage de Gisors et qui concerne la fontaine du Houx. C'est un comte de 1301-1302 et c'est le comte de Verrier le plus ancien que l'on connaisse en histoire de France et qui détaille une livraison, une fourniture pour 90 livres de verrières. De panneaux de verre. Justement, tout à l'heure, avec Elisabeth, nous revisitions ensemble un peu la cathédrale de Rouen. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu ces petits morceaux de verre que l'on pouvait assembler pour donner nos vitraux au XIIe, XIIIe siècle. Sauf qu'à Lyons, il se passe, en forêt de Lyons, il se passe quelque chose de tout à fait important en matière d'industrie verrière, c'est qu'on commence à savoir fabriquer donc des panneaux de verre qui ne vont pas tarder à atteindre un mètre carré. Voilà. Et ça va révolutionner toute une partie du bâti. Voilà. Et on a cela en particulier pour la fontaine du Houx. Et je vous ai mis ici au centre un exemple. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de la spécialiste du verre médiéval. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me donner un exemple, puisqu'on n'a plus de verre de cette époque en forêt de Lyons. À quoi ressemble une verrière de grande qualité à cette époque. Et elle est allée me chercher cette petite planche, cette petite photo que vous avez ici au milieu. C'était du verre qui était peint. Bien. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y a pas que le roi qui construit des résidences, il y a aussi des grands officiers, et en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure d'Enguerrand de Marigny. Enguerrand de Marigny, issu originaire natif de la forêt de Lyons, qui va connaître une carrière considérable, une ascension considérable, puisque à la fin du règne de Philippe, il est quasiment considéré, d'ailleurs on l'appelle le vice-roi du royaume de France. Et il y a une sorte de surenchère entre Philippe et Enguerrand. À 3-4 km de la fontaine du Houx se trouve Menneville. La question que je me pose d'ailleurs, c'est qui a imité qui ? Est-ce que c'est Philippe le Bel qui a cherché à imiter son principal conseiller, son chambellan Enguerrand, ou le contraire ? Je pense que c'est plutôt dans ce sens que ça fonctionne, puisque je sais que Enguerrand a récupéré Menneville, certainement de sa mère, vers l'âge de 15-20 ans, en 1290. Donc, il a déjà cette résidence, mais il va bien sûr l'améliorer, la rénover. Et vous avez ici quelques éléments de cette résidence. Dans les notices, on dit qu'il ne reste plus rien de la résidence d'Enguerrand de Marigny. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur parce que c'est extrêmement difficile. Et la première chose que je vois, c'est un superbe parement du XIVe siècle que vous avez ici en bas à gauche. En revanche, les tourelles ont dû être un peu perturbées, on va dire, au XVe siècle, mais il devait y avoir des tourelles un petit peu comme ceci au XIVe siècle. Ce qui est extraordinaire, ce sont les caves, ce qu'ils appellent là-bas les souterrains, mais ce sont les caves, donc on a l'impression qu'elles ont 100 ans. Elles font 40 mètres de long, puis ensuite vous avez un angle, ça part sur la gauche, 25 mètres encore, avec des niches tous les 10 mètres. Elles sont encore plus belles que les caves du château de Gisors. On sent que on est chez le chambellan, le premier chambellan de roi, Enguerrand de Marigny. Vous avez ici un acte de Philippe le Bel, signé à Menneville, et puis bien sûr les armes d'Enguerrand. Voilà, alors, je m'approche de la fin pour dire que ce qui est intéressant aussi, et ça fait vraiment réseau Ce sont tous ces équipements que l'on trouve donc en forêt de Lyons, des équipements qui sont un petit peu communs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comme on a récupéré des comptes d'entretien, en fait, on s'aperçoit que lorsque les ouvriers, les artisans interviennent, eh bien, ils interviennent dans tous les châteaux pour faire la même opération. Alors, sauf que, là, ça me fait mentir, les viviers, non, il n'y a pas des viviers partout. Il y a pas mal de poissons en forêt de Lyons, mais à condition que la résidence soit quand même dans, dans une vallée. Donc c'est le cas avec Lyons, hein, je vous ai indiqué où étaient les viviers au fond. C'est le cas aussi à la Fontaine du Houx, c'est le cas à Neufmarché, mais ce n'est pas le cas à La Feuillie et à Longchamp. Ce poisson, il est destiné à être vendu, il est destiné à approvisionner le roi, sa cour, ses 300 personnes hein, quand elles arrivent donc, dans la région. Mais ce poisson sert aussi à approvisionner le roi, la reine, alors même qu'ils sont à Paris. Et parce qu'on a un conte qui est connu de 1306 où on nous explique qu'on a pêché énormément de poissons dans le vivier de Lyons pour l'envoyer donc à Paris et en l'occurrence c'est pour l'hôtel de la reine. Il n'y a pas que d'ailleurs que le vivier de Lyons qui a été sollicité, il y a d'autres viviers aussi au château donc d'Andely. Je signale d'ailleurs que le chasse-marée passe à proximité, longe la forêt de Lyons. Vous savez, le chasse-marée, c'est ce service qui est assuré entre Dieppe ou le Tréport, mais là c'est Dieppe et Paris. Le problème, c'est d'approvisionner Paris, en particulier le carême, en temps de carême, avec du poisson qui soit suffisamment frais. Et normalement, on arrive à le faire en moyenne en 20 heures. Donc 20 heures pour relier Paris. Hein, le poisson arrive au petit matin au port de Dieppe et va arriver à 5 heures du matin à peu près à Paris le lendemain. Et on voit très très bien le chemin et le chemin longe la forêt de Lyons. Et d'ailleurs il y a même des petits chemins. Donc il y a un double réseau qui passe en partie par la forêt de Lyons et je pense que ce poisson qui est pêché, eh bien, donc, il va rattraper l'itinéraire du chasse-marée. Vous avez ensuite des jardins et ça m'a étonné quand j'ai regardé les comptes. En fait, ça apparaît sous le nom de Praël. Praël, c'est une déformation de pratellus qui veut dire pré, petit pré. Ce terme apparaît ailleurs en France et justement il est associé à ces grandes résidences. Donc il y a au cœur de ces châteaux, alors même qu'on pense peut-être à Châteaufort, il y a des jardins comme un petit peu ce jardin qui a été reconstitué ici façon médiévale qui peuvent être aussi associés à un cloître, à un préau. J'en ai trace donc, pour la forêt de Lyons, puisque à chaque fois, pour une année, j'ai tant d'argent, c'est la même somme, pour retourber le Praël de Longchamp, retourber le Praël de la résidence de Lyons, de la résidence La Fontaine du Houx, et ainsi de suite. C'est systématique. Donc, il y a ces Praëls, il y a ces préaux, il y a aussi le parc à Gibier, qui est une sorte, moi, que j'aurais tendance à voir un peu comme une ménagerie. C'est-à-dire que le roi a tendance à collectionner quelques très belles bêtes hein, qu'il a pu croiser peut-être en forêt de Lyons. Parfois aussi, on lui fait des cadeaux. Tel roi d'Italie, et ainsi de suite, parce qu'on a ses traces aussi. Et il va placer, donc, par exemple, des serres d'Apulie, Apulie, les Pouilles, dans sa résidence de La Feuillie. En termes de structure du bâti, on a donc des maisons. C'est surtout visible dans les manoirs et des maisons où l'on trouve à l'intérieur des salles en enfilade. Et ce qui est très net, c'est qu'on distingue deux types de salles. Il y a la salle du roi, enfin deux pièces, la salle du roi, donc qui est ouverte au public, et la chambre du roi. Et donc là, on sent déjà l'idée du retrait, l'idée d'une dimension privée. Et donc, dans tous ces manoirs, il y a la salle du roi, la chambre du roi, la salle de la reine, la chambre de la reine, la salle du duc, la chambre du duc. Voilà. Je ne dis pas qu'on a beaucoup plus d'informations, mais ça, c'est déjà très clair, ce qui veut dire que le roi, la reine, le duc viennent vraiment très souvent. On a très certainement une grande salle, donc comme au château de Gisors, évidemment comme à Rouen, je pense à Lyons. En tout cas, on a tout à fait la place sur la plateforme sommitale pour l'accueillir. Il y a évidemment des chapelles, je passe. Et puis, une autre singularité de ces résidences, donc, c'est le verre. Et le verre, on en trouve dans toutes les autres résidences, pas seulement à la fontaine du Houx, même si les sommes donc, sont un peu moins importantes. En revanche, du verre, j'en trouve pas à Gisors, j'en trouve pas à Château-Gaillard. On a l'impression que c'est une caractéristique des résidences de la forêt de Lyons, donc pour cette haute époque. Encore une fois, c'est du verre qui est peint. On a aussi des décors peints sur les murs. Je sais qu'à Gisors, c'est sans doute la même chose dans les résidences du Pays de Lyons, on utilise de façon précoce la peinture à huile. Voilà, et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je termine, donc voilà encore la verrière, et je termine par cette statue, donc tout à fait extraordinaire, une sculpture emblématique, sculpture donc qui a posé énormément de problèmes, qui continue de poser des problèmes aux historiens. Donc, puisque je fais partie de ceux qui considèrent, et le dossier est en train de s'épaissir, que vous avez ici l'un des premiers exemples dans l'histoire de l'art d'une statue figurative où l'on a véritablement cherché à représenter un roi, en l'occurrence ici Saint-Louis, donc sous ses véritables traits. Donc tout le monde n'est pas d'accord, les historiens de l'art ne sont pas d'accord de façon générale, en considérant que c'est beaucoup trop tôt. Et Patrick Boucheron, que vous connaissez peut-être, est de l'avis des historiens de l'art. Mais il y a d'autres documents, comme par exemple, nous en parlions tout à l'heure, Elisabeth et moi, les contes de la comtesse d'Artois, qui nous indique, qui date exactement de la même époque, on est en 1297-1300, où il est question de commandes, de statues à l'effigie de la comtesse d'Artois, du comte d'Artois, de la reine de France, et ainsi de suite. Alors cette statue, elle n'est pas restée dans l'une de ses résidences, elle est restée dans Amenville, dans la chapelle Saint-Louis d'Enguerrand de Marigny. Mais si je vous la montre ce soir, c'est que je serais très, très surpris d'apprendre un jour que le roi n'a pas cherché à faire la même chose. Je pense que des statues de ce type, il devait y en avoir dans les autres résidences donc, de la forêt de Lyons. Et ce d'autant plus par rapport à Saint-Louis que le roi de France vient très souvent, en particulier Philippe le Bel, vient très souvent au mois d'août donc chasser à Lyons. Et au mois d'août, c'est la Saint-Louis. C'est le 25 août, la fête de la Saint-Louis. Et j'ai retrouvé, par exemple, dans les comptes, une somme considérable qui a été dépensée par le roi. Pour le 25 août 1308, il est au château de Longchamp. Manifestement, donc, il a souhaité célébrer d'une certaine façon cette fête de la Saint-Louis, avec toute une partie de la cour de France à ses côtés. Ça a coûté 2000 livres. 2000 livres, je vous l'ai dit, le budget de la couronne, c'est 200 000 livres. 1% donc, du budget de la couronne pour une seule journée de fête, donc en mémoire du grand-père qui a été canonisé. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais achever cette conférence donc, sur cette image voilà, qui rend bien compte, alors même que ces résidences aujourd'hui n'existent plus parce que la guerre de Cent Ans est passée par là et que l'un des problèmes que j'ai rencontré dans ma recherche, eh bien, ça a été de retrouver justement ces traces d'un monde qui aujourd'hui est à peu près totalement révolu.